Je suis heureuse de vous accueillir ce soir ici pour la remise du prix du concours de la nouvelle organisé par la BPI dans le cadre de la manifestation annuelle Dis-moi, Dis-mo que la délégation générale à la langue française organise. Je remercie Léonore Schex et Flore Lurienne qui, avec leur spectacle Déshabiller mots, a introduit les animations et le concours, ainsi que François Morel qui est là, qui a accepté très volontiers de présider le jury de ce concours. Je salue et félicite tous les participants au concours qui se sont prêtés à cet exercice d'écriture d'une nouvelle. Sans attendre, je laisse François Patriarche qui a organisé avec ses collègues les manifestations autour de Dis-moi, Dis-mo pour vous en dire un petit peu plus sur la cérémonie de ce soir.
Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc François Patriarche du service auto-formation, on a organisé ce concours. Je vais vous dire un petit peu juste dans quel cadre a eu lieu ce concours. Donc c'était un concours dans le cadre de Dis-moi, Dis-mo. Donc il y avait plusieurs choses organisées. Il y avait une dictée où les lecteurs ont pu faire la dictée de François Morel. Il y avait un spectacle, donc, comme Nelly l'a rappelé, Déshabiller mots. Et donc il y avait ce concours de nouvelles. Je voudrais, avant de laisser la parole à François Morel, rappeler la règle du jeu. Il fallait écrire une nouvelle ou un dialogue n'excédant pas 1500 mots, avec pour titre un des 10 mots. Donc cette année, les 10 mots étaient amalgame, kitsch, sérendipité, ciblé, inuit, bravo, wiki, zénitude, kermesse, gris-gris. Il y a eu 29 participants à ce concours et les mots les plus choisis ont été amalgame 6 fois, bravo 5 fois et sérendipité 5 fois. 8 prix ont été remis, donc il y a les 3 premiers prix et on a aussi décidé de donner des coups de cœur, donc il y a 5 coups de cœur. Ça fait en tout 8 nouvelles qui seront publiées sur le site web de la BPI. Voilà. Alors un petit mot sur les coups de cœur. Les coups de cœur, c'est quand certains membres du jury ont beaucoup apprécié une nouvelle, mais qu'il n'y avait pas un consensus total pour attribuer un prix. Donc on a attribué ce qu'on appelle un coup de cœur, un prix de consolation en quelque sorte, pour des nouvelles qui ont été tout de même beaucoup appréciées. Je voudrais juste vous présenter les membres du jury qui sont ici, qui peuvent peut-être venir sur scène, puisque c'est une scène. Alors, Frédéric Lucas, du service art et littérature, Pierre Moine, du service ressources humaines, et il y a aussi un membre du jury qui n'a pas pu venir ce soir, puisqu'elle est à Malaga, c'est Catherine Vert, qui travaille au musée du Centre Pompidou. Voilà. Et bien sûr, je vais faire une petite présentation de François Morel, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors, François Morel, vous vous définissez avant tout comme comédien et chroniqueur. Comme chroniqueur, on peut vous écouter tous les vendredis matins sur France Inter vers 8h55. Comme comédien, on vous a vu jouer Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme de Molière. Et en ce moment, vous jouez seul en scène dans un spectacle écrit par vous, La fin du monde est pour dimanche. Dans les vœux de courage que vous adressiez aux Français au début de l'année, vous dites que nous pouvons nous réjouir du fait que les Français fréquentent beaucoup les théâtres, les salles de concert, les bibliothèques, les librairies. Vous dites qu'ils sont curieux, désireux, impatients de connaître, d'aimer, de partager. Aujourd'hui, vous venez... je tremble. Excusez-moi, c'est l'émotion. Vous venez au contact de ces Français et je pense que cela aussi, nous pouvons nous en réjouir. Alors, je pense que oui, vous pouvez aller derrière.
J'ai préparé un discours, mais rassurez-vous, il est très court. À côté des romans fleuves, il existe des petits ruisseaux qui s'appellent des nouvelles. Ce n'est sûrement pas facile d'écrire La recherche du temps perdu, Les Thibauts ou Belle du Seigneur, mais raconter une histoire concise, concentrée, ramassée, expressive, avec un dénouement souvent inattendu, surprenant, ce n'est pas donné à tout le monde. Baudelaire, analysant la nouvelle, écrivait « Elle a sur le roman à vaste proportion cet immense avantage que sa brièveté ajoute à l'intensité de l'effet. Dans une nouvelle, chaque mot doit être choisi, juste, précis. On n'a pas le droit d'ennuyer le lecteur, on n'a pas l'occasion d'être digressif. Merci à tous les candidats d'avoir tenté cet exercice difficile et de l'avoir souvent réussi. Merci à chacun des participants d'écrire, c'est-à-dire de chercher dans un moment de solitude à aller vers l'autre, de parler à son intelligence, à sa sensibilité, à son esprit. Dans un épisode des Dalton, on voit les quatre frères enfermés dans la cellule de leur pénitencier en train de lire parce que quelqu'un leur a dit que lire un livre était le meilleur moyen de s'évader. Comme les Dalton, n'oublions pas de lire, mais aussi d'écrire pour s'évader, pour se retrouver à l'air libre, pour voyager, pour aller à la rencontre, pour mieux comprendre l'humanité et mieux se comprendre soi-même. Mais ce serait déplacé de dire un long discours au cours d'une cérémonie consacrée à la nouvelle, c'est-à-dire à la concision. Je vais maintenant me faire le porte-parole des trois voix que le jury a eu envie de mettre en avant et de donner aussi les coups de cœur. François, viens m'aider. Alors, le premier coup de cœur, je l'ai dit comme ça, non ? Alors, a été donné à décerner à Marion Moraes pour Amalgame. Et pourquoi je suis tout seul ici, moi ? Pourquoi venez ? Venez, ça, hein ? Je vous le donne, mais elle est loin, regardez. Venez. Alors, vous vous mettez là. D'accord. Vous me donnez derrière, comme ça, là, hop, et puis là, moi, je dis. Merci. Voilà, un discours qui est court. Le deuxième coup de cœur est décerné à Dédé Agneau pour Gris-Gris. Là, hop.
Merci beaucoup.
Voilà. Deux fois plus long que le précédent. Le troisième coup de cœur décerné à Isabelle Tréhé pour Ma Zénitude. Quatrième coup de cœur pour Lise Bossard, Wiki. Les coups de cœur sont essentiellement féminins. Merci. Merci. Et le cinquième pour Catherine Novak, Inuit. Catherine est là, voilà. Et alors ? Alors, le troisième prix ?
Alors, oui.
Alors, il s'agit maintenant des prix du jury. Le troisième prix était décerné à Jean-Marie Palac pour Amalgame. Ouais. Et alors, je le lis maintenant.
Après, je le lis.
Bravo. Et je vais le lire maintenant.
Ah oui, bah donc...
D'accord. Amalgame de Jean-Marie Palac. Je faisais du stop quand un camion s'est arrêté. Une femme tenait le volant. « Bonjour », a-t-elle lancé. « Je peux vous prendre, je m'arrête à Montélimar. » Depuis plus de 2 heures, je poireautais sur l'air de Beaune-Tailly. À l'heure du déjeuner, un négociant en vin avait choisi l'endroit où me poster en me laissant des espoirs raisonnables d'attraper une autre voiture qui me rapprocherait d'Avignon. J'avais quitté la capitale aux aurores avec la ferme intention de rallier mon objectif dans la journée. Paris audacieux, les automobilistes répugnent de nos jours à convoyer gracieusement des inconnus. Mais je n'avais pas le choix. Mon compte en banque virait au rouge. Le cachet de ma dernière prestation avait fondu. Je devais absolument trouver quelque chose. C'était pour cela que je fonçais plein sud. Plusieurs projets se montaient dans la Cité des Papes quelques semaines avant le festival. À 25 ans, je pouvais prétendre à beaucoup de rôles, à condition d'être sur place. La chance m'avait d'abord souri. Porte d'Italie, un élégant quinquagénaire avait rangé mon sac à dos dans son Audi blanche et nous avions passé un moment agréable. Il décrivait la richesse des Bourgognes blancs, sa spécialité et le cœur de son commerce. Et je l'informais de l'actualité théâtrale. Un échange de bons procédés qui meublait le monotone itinéraire. Mais après ce coup de pouce initial du destin, les augures s'avéraient moins favorables et je désespérais d'atteindre mon port avant la nuit. Aussi n'ai-je pas hésité. À Montélimar, je ne serai plus qu'à 80 km du but. Dans le pire des cas, je dormirai dans la ville du Nougat avant de reprendre la route le lendemain. « Volontiers », ai-je répondu en détaillant l'interlocutrice qui me tendait les bras. C'était une jolie femme, le contraire de la caricature du routier, sympa, certes, mais dans l'imaginaire populaire, mais un tantinet lourd, adepte des blagues salaces et des images cochonnes affichées dans la cabine. Au lieu du physique rustaud de l'emploi, elle présentait un corps svelte, sain, harmonieusement proportionné, autant que je pouvais en juger à sa position assise. Ses vêtements la mettaient en valeur. Foin du jean quasi réglementaire, elle avait enfilé une jupe légère et un chemisier blanc échancré, sous le tissu duquel pointaient des seins que je devinais fermes et généreux. « Vous êtes à votre aise ?» me demanda-t-elle en me jetant un regard bienveillant. « Oui, merci, tout va bien. Le siège est un peu dur quand on n'a pas l'habitude, » ajouta-t-elle. Je m'abstins de répliquer que j'avais l'impression d'être au paradis et que la raideur éventuelle de la banquette valait mieux que la station debout, le pouce levé dans l'air de bonne taille. Elle démarra. Je l'observais du coin de l'œil. Elle conduisait son mastodonte d'une main sûre. Des deux côtés, le paysage défilait. Adieu Bourgogne, mon Amazone ne devait pas avoir plus de 30 ans. Quand elle souriait, souvent elle découvrait des dents d'une régularité parfaite, puis elle refermait ses lèvres sensuelles et se concentrait sur la route avec l'application juvénile d'une excellente élève. Jamais je n'aurais espéré faire une telle rencontre. Mentalement, je calculais la durée du voyage, 4 heures environ à l'allure où elle menait sa monture rugissante. Je me fixais un challenge. Conquérir cette fille magnifique que le sort m'envoyait à l'improviste. C'était un défi à ma mesure. J'en avais le talent et l'avais maintes fois prouvé malgré mon jeune âge. Je dois l'avouer, séduire est mon obsession. C'est sans doute la raison pour laquelle j'ai décidé de m'orienter vers le théâtre. Le prestige de l'artiste facilite la tâche. Il n'est pas rare, au soir d'une représentation, que les comédiens soient attendus par des groupies enamourées, prêtes à prolonger la magie du spectacle entre deux draps. Je ne rechigne pas à faire don de ma personne. Mais sur l'autoroute A6, un après-midi de juin, l'opération s'avérait plus incertaine. La donzelle ignorait tout de moi. Je devais tenter de l'intéresser. On ne fait pas une sportive de haut niveau comme une amatrice d'opéra, un rat de bibliothèque comme une lectrice d'Arlequin, une militante du front de gauche comme une militaire de carrière, je cite ces catégories à dessein, ayant réussi à accrocher au moins un spécimen de chacune à mon tableau de chasse. À Chalon-sur-Saône, je lançais une première sonde. « Vous devez être fatigué le soir. Qu'est-ce que vous faites pour vous changer les idées ?»« Je me douche et je dors. Pas l'énergie pour autre chose. » L'évocation de ma voisine nue sous la douche me chavira. Un picotement de désir me parcourut la moelle épinière. Je convainc que ma question était idiote, elle ne pouvait que s'écrouler sur un lit lorsqu'elle rejoignit enfin son hôtel. Je devais réparer la mauvaise impression produite. Et le week-end, ou pendant les vacances? Ça dépend des périodes et de mes fréquentations. À une époque, j'adorais le slam. Grand corps malade, c'est le plus connu, je l'ai vu une fois à Lyon, mais d'autres aussi. Chouette, je pouvais faire dériver la conversation vers mon domaine de prédilection. Et les autres spectacles, le théâtre, j'aimerais, mais je n'ai pas la culture de base. J'ai peur de ne pas tout comprendre. Sa franchise me ravit. Une fille jolie, naturelle et modeste, ça ne court pas les rues. Nous étions à hauteur de Mâcon. J'avais le temps de dérouler mon avantage, mais je devais m'appliquer, trouver le ton juste, ni méprisant, ni démagogue. Vous devriez essayer. Le théâtre en appelle plus à la sensibilité qu'à la culture, surtout les pièces contemporaines. À la rigueur, vous louperez une ou deux références. Ça ne vous empêchera pas d'avoir un avis, d'éprouver des émotions et d'aimer ou de détester l'œuvre. Bref, d'avoir votre propre jugement. Elle ralentit le Kingston. J'avais touché la cible. Derrière nous, un bus klaxonna. Caroline, nous avions décliné nos identités, reprit son rythme de croisière. Mes mots lui offraient des horizons. « Vous croyez vraiment ?» murmura-t-elle, rêveuse. « Oui, vous êtes intelligente, curieuse. Ce serait dommage de vous interdire un plaisir fait pour vous. » Nous approchions de Villefranche. Je ne devais pas mollir. Mon expérience m'avait enseigné la crédulité du public. Caroline délaissa le ruban de bitume et me dévisagea. Une question la taraudait. « Le théâtre, vous semblez connaître, vous êtes de la partie ?»« Artiste, depuis 5 ans. Je descends dans le sud répéter une pièce. Nous la jouerons pendant le festival. » Cette fois, ma conductrice réagit en appuyant sur l'accélérateur. La distance qui nous séparait du véhicule précédent se réduisit en une poignée de secondes. Puis, Caroline revint à son allure ordinaire. Je me jurais de lui éviter de trop brutales révélations. Notre sécurité et mon intégrité physique étaient en jeu. « Quel métier merveilleux !» s'exclama-t-elle. « Je ne pensais pas rencontrer un jour quelqu'un comme vous. En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était mon rêve quand j'étais gamine, de devenir comédienne. Et puis, l'eau a coulé sous les ponts. » En parlant, elle haussa les épaules. Sous l'impulsion, ses seins sortirent à moitié de leur cachette. Elle n'y prêta pas attention, tandis que je frisais l'apoplexie. Ensuite, elle me bombarda de questions sur les répétitions, les manies, les superstitions de mes collègues, leur mode de vie. Mes anecdotes la subjuguaient. Je m'y mettais en valeur sans ostentation et chaque fois que notre dialogue s'y prêtait, je l'exhortais à se lancer dans l'aventure, prendre des courses, essayer dans une troupe amateur. Elle avalait mes conseils comme du miel et me remerciait de mes encouragements. En devisant de la sorte, les minutes et les heures défilèrent à grande vitesse. Les panneaux indiquèrent Villefranche, Lyon et Vienne, sans que mon aspirante à la scène ne se lasse de mes confidences. Je la sentais mûre pour l'estocade. Lorsqu'une énorme friandise en plastique signala l'entrée au royaume du nougat, je décidai de frapper. Mais je redoutais une réaction incontrôlable et je tenais à la vie. Aussi attendis-je le ralentissement du péage pour passer à l'action. D'un geste lent, je dirigeais ma main gauche vers ma proie. Elle perçut le mouvement et chercha du regard l'objet que je tentais de saisir. Il n'y avait aucun objet. Je posais ma main sur sa cuisse droite. Le poste du péage n'était plus qu'à 5 mètres. Caroline, préoccupée par le franchissement de la barrière, n'accorda plus d'attention à mes intrigues. Après avoir présenté à la guichetière la carte exigée, elle gara le Kingston. Dans l'attente du verdict, je caressais sa cuisse. Chaque seconde supplémentaire augmentait mes perspectives de victoire. Caroline attrapa ma main, la souleva délicatement et planta ses beaux yeux dans les miens. Puis elle m'annonça la sentence, à regret. « Franchement, vous m'êtes très sympathique. J'ai apprécié votre compagnie et vous reverrez avec plaisir, mais je ne souhaite pas aller au-delà. » Et pour me consoler, elle conclut « Désolé, je ne suis pas attiré par les femmes. » Le deuxième prix, je dis maintenant quoi. Le deuxième prix est attribué à Jean-Philippe Klein pour la Zénitude.
Hop. Alors, et c'est quoi le prix?
Oui, je vais dire que les prix, les coups de cœur, c'est le dictionnaire des mots d'origine étrangère. Et pour les trois premiers prix, donc, c'est des liseuses avec des cartes de rechargement.
La zénitude sous forme de nouvelles fantastiques. Ce soir-là, le docteur Barnabé Trouillard était anxieux. Ancien chercheur, spécialiste de la chaîne respiratoire mitochondriale en eau oxygénée, il avait terminé sa carrière sur une profonde mésestime de lui-même, déçu de n'avoir récolté en temps voulu la reconnaissance de la communauté scientifique universelle. Mais comme il est écrit, il n'y a pas de science sans patience. Il s'était retiré dans le Morbihan, en bord de mer, dans un ancien moulin à marais, légué par ses parents, et vivait dans un confort très relatif. Menacé d'expulsion pour non-paiement de l'impôt, il se savait sursitaire et battait froid avec les représentants de l'État. Dans ce milieu retiré, ses plus proches voisins étaient un couple d'oies bernaches qui avait trouvé le coin charmant et une famille d'avocettes qui fouillait en permanence la boue de la baie à marée basse. Sa personnalité d'homme solitaire, forgée tout au long d'interminables heures de réflexion, lui imposait de maîtriser à chaque instant son univers proche, à en définir les contours, à ne rien laisser au hasard. Phobique, il accumulait avec empressement une masse d'objets disparates afin que le quotidien ne le prenne pas au dépourvu. Diogène n'était pas loin, il lui tendait la main. Mais ce soir-là, il ne dormait pas tant il était déstabilisé. Assis sur l'escalier de granit conduisant au jardin, il regardait dans ce ciel breton la pluie d'étoiles filantes et ses points lumineux qui cachaient pour chacun des millions de galaxies. Ainsi, lui qui avait travaillé toute sa vie sur l'infiniment petit se rendait compte de l'infiniment grand. Il n'en était pas arrivé là par hasard. Une semaine auparavant, parisien d'un jour, il avait acheté chez un bouquiniste des Quais de Seine un ouvrage d'astrophysique dont la lecture intensive n'avait fait qu'empirer ses travers intellectuels pour en arriver ce soir à cet état quasiment cataleptique. Où sont ces trous noirs qui aspirent les étoiles, l'énergie du même nom, ces supernovas, et la matière sombre qui serait plus importante que la visible? Cet univers en expansion dont il cherche vainement le périmètre, comment le modéliser, le conceptualiser, imaginer son diamètre d'environ 15 milliards d'années-lumière et l'ensemble de ses composants, des pulsars brillants par leur absence, aux amas de poussière interstellaire, trop, c'est trop. Cette errance à la frontière du matériel n'est pas compatible avec sa connaissance. Lui qui a appris qu'une cellule de 10 microns dont il voyait quotidiennement le contour avec son microscope était composée de 1000 milliards d'atomes. C'était déjà beaucoup d'efforts. Ainsi, aussi les 100 milliards de neurones de son cerveau ont jugé la situation intenable, pour ne pas dire mortifère. Leurs interconnexions se sont affolées avec une effervescence insoupçonnée, réduisant leurs messages complexes à des acronymes afin de gagner du temps. C'est alors qu'une bande lumineuse, surgissant de l'espace, s'abattit sur le potager, provoquant un nuage nacré d'une luminosité intense, englobant une des avocettes qui cherchait désespérément le sommeil au milieu des poireaux et des choux, amoureusement cultivée par Barnabé. Bien que son visage restât impassible, on devinait dans ses yeux une stupeur certaine et de nombreuses interrogations sur les événements à venir dans l'espace-temps immédiat. Que sont devenus mes légumes et cette avocette si gentille? D'où vient ce phénomène? Ne serait-ce pas mon percepteur qui aurait conçu et placé en mon absence une machine pyrotechnique infernale, source de ce nuage dissimulateur, lui permettant d'émerger brutalement pour me chasser définitivement? Avec beaucoup de discernement, on sentait l'angoisse monter en lui. Mais peu à peu, cette densité lumineuse se dispersait au profit d'une multitude de formes filamenteuses. La transparence s'instaurait. Le mystère allait s'élucider, non sans une nouvelle surprise. Une forme gracile se détachait de l'épicentre, et ce n'était pas lui engoncé dans son costume de technocrate sinistre, plus enclin aux additions accablantes qu'aux soustractions salvatrices, mais une beauté en robe blanche, sur laquelle tombaient des cheveux ébouriffés à la peau fine et aux yeux de faïence. « Où suis-je ?» demanda cette déesse. « Dans mon jardin ?» articula péniblement Barnabé. « Non, je veux dire, sur quelle planète » renchérit-elle. « Ben, sur Terre ?» répondit-il avec un étonnement naïf, avant d'ajouter « Mais d'où viens-tu et quel est ton nom ?»« Je me prénomme Agathe. On me dit nièce d'Aglaé et je vis dans l'univers. Je fais partie du SIG, le SAMU intergalactique. J'étais en train de jouer à Colin Maillard dans la constellation de l'Hydre lorsque, depuis la comète Tchouri, Philae, mon robot sentinelle préféré, m'a envoyé un message me signalant ton désarroi. Alors, le temps de prendre ma trousse de secours interstellaire et me voici. Bigre, la nièce d'Aglaé. Devant tant de grâce, son organisme commençait à réagir violemment. Il eut un mal de tête soudain. Les neurones de l'esprit apollinaire s'opposaient aux jacobins, ces derniers considérant qu'un être parfait ne peut laisser l'émotion influer sur la raison. La guerre ouverte était déclarée. Non seulement Barnabé Trouillard leur imposait de réfléchir sur l'univers, mais à présent il fallait intégrer une dimension affective dans leur mode de raisonnement. Ils avaient l'impression d'appartenir à un être décadent et c'était un euphémisme. La conséquence immédiate fut une perte de coordination des différents centres de décision. On passait d'une catalepsie profonde à une forme de corée avec ses gestes désordonnés. Agathe ne perdit pas son sang-froid, mais se dit qu'il était temps d'intervenir. Saisissant sa boîte de Pandore, elle sortit successivement une broyeuse d'idées noires, un aspirateur d'interférences négatives, autant de choses inconnues des urgentistes du système solaire. Même Titi, le praticien le plus doué d'entre eux était à 100 années-lumière d'imaginer une telle thérapeutique. Mais le fin du fin, qu'elle manipula avec la plus grande délicatesse, la pierre de jade fondamentale, ancêtre de la pierre philosophale, capable à elle seule de résoudre les problèmes les plus complexes. Elle la posa sur le front de Barnabé et orienta sa tête vers la constellation du microscope. Des rayons invisibles captés et retransmis lui faisaient vivre une expérience sensorielle hors du commun. Le maestro de son épigénétique ne jouait plus de requiem, c'était un air de jazz qui trottait désormais dans sa tête. Son regard de cire s'illumina, un large sourire apparut. Sa perception de l'environnement subissait une mutation profonde. Son approche de l'univers et de la mitochondrie n'était plus anxiogène. Assommé par tant d'épreuves, il s'endormit dans les bras d'Agathe. Il venait de comprendre que l'on ne peut pas tout comprendre, mais que le pire est de ne pas s'interroger. Son esprit scientifique se retrouvait en phase avec lui-même. Le chercheur en retraite, Barnabé Trouillard, avait atteint la zénitude. Et donc, le premier prix a été attribué à Isabelle Thalès pour Inuit.
Alors, Isabelle Thalès n'a pas pu venir. Donc, du coup, nous lui remettrons son prix plus tard. Mais François Morel va quand même lire sa nouvelle.
Inuit. Cap Griné, lundi 16 mars 2015. Chers Inuits, je m'appelle Merlin, j'ai 14 ans, j'habite au nord comme vous. Mais pas le grand. Un petit nord d'un assez petit pays, la France. On nous appelle les ch'tis, comme vous les Inuits. Mais nous, c'est un peu pour rigoler ou pour faire des films qui font rigoler. J'ai appris votre nom et votre histoire hier, en cours de géo. D'habitude, j'écoute pas. Je pense à mes affaires. Je vous dirai lesquelles. Mais là, quand le prof a montré le haut de la planète, un endroit où sa règle n'était jamais allée, jusqu'hier, on avait surtout étudié la Loire, les massifs karstiques et les reliefs herciniens. J'ai levé les yeux, au nord, plutôt qu'au ciel. Faut dire qu'il s'y est bien pris. Il nous a parlé d'abord des grandes expéditions polaires, celles de nos ancêtres qui sont venus déranger les vôtres. Ça prenait des années, ça finissait souvent mal. les explorateurs polaires se faisaient bouffer par les ours ou, plus souvent, trahir par les hommes. Il nous a dit que la première fois que les Inuits sont montés dans un bateau d'explorateurs, ils ont surtout pensé, pas bête, à voler du bois et des clous. Des trucs qu'ils n'avaient jamais vus et qui leur ont été bien utiles pour fabriquer des traîneaux plus solides. Plus tard, ils ont piqué des fusils, de la gnôle. Les explorateurs leur ont piqué leurs femmes, leurs meilleurs coins de pêche et de chasse. Bref, aujourd'hui, il paraît que vous êtes beaucoup moins nombreux qu'à l'époque. Le prof nous a montré un petit film où on voit que vous vivez dans des préfabriqués avec des poêles et plus dans des maisons de glace où il faisait quand même super chaud. Que vous portez des anoraks orange comme moi, comme mon anorak, je veux dire, je suis plutôt blond et pâle sinon, qu'on a mis votre passé dans les musées des autres et puis, entre deux images d'ours blancs trop gros pour leurs petits morceaux de banquise, il paraît que l'inverse est devenu rare, on a vu une aurore boréale. Waouh ! Alors là, balèze, ce ruban vert qui serpente dans le ciel entre les étoiles, j'avais jamais rien vu d'aussi beau à la télé. En nous montrant l'aurore boréale, le prof a dit « N'est-ce pas merveilleux ? Surnaturel ? Inouï ? Plutôt inuit, monsieur !» J'ai dit. Tout le monde a rigolé, mais le prof les a scotchés net. Merlin a raison, car il paraît qu'on ne voit que ça que chez vous, dans le Grand Nord, et pas chez nous, dans le Petit. Ouais. Les choses qu'on ne voit qu'ailleurs et pas ici, je me méfie. Parce que chez moi, il y a des choses qu'on ne voit pas ailleurs. C'est ça, mes affaires. Des trucs inouïs. Mais pas inuits, c'est vrai. Je vous le dis qu'à vous, mais chez moi, on est merveilleux d'arrière-arrière-grand-père en petit-petit-petit-fils. Je compte dans mon arbre généalogique 14 dompteurs de licornes, 11 sirènes, 8 chasseurs de dahus, 283 coinceurs de bulles. En général, ils se marient avec des magiciens, des funambules, des jongleuses. C'est un vrai boulot d'être merveilleux chez moi. Mais parfois, les merveilleux vieillissent mal. Par exemple, mon père coince les bulles au bar du coin. Ma mère ne jongle plus, elle croise seulement les mots dans Télé 7 jours. Reste mon grand-père, coureur d'arc-en-ciel depuis 75 ans, mais aujourd'hui à la retraite. Son job, c'était de courir au bout d'un arc-en-ciel pour récupérer le trésor qui s'y trouve. Pour les gens comme mon prof, c'est une légende, un truc qu'on dit pour rigoler. Eh bien, c'était le boulot de mon grand-père, et c'était pas rigolo, parce qu'il fallait courir très vite, très loin, et dans la bouillasse qui colle sur les chemins après l'orage, et qui trouvait pas toujours le trésor. Bref, c'est pas facile d'être merveilleux. Moi, on m'a appelé Merlin, au cas où je sois un magicien né, car on ne sait pas toujours tout de suite si on va être merveilleux. Comme vous, j'imagine. On n'est jamais sûr qu'un Inuit serait inouï, non ? En tout cas, ils m'ont appelé Merlin. Comme ça, quand je dis mon prénom, Merlin, on me demande à tous les coups, l'enchanteur ? Ma mère m'a appris à répondre non, mais enchanté, c'est déjà ça, elle dit. En fait, j'essaie d'être merveilleux, mais chez nous, pour être merveilleux, ça ne suffit pas de lever la table ou d'avoir une super note en géo. Alors j'ai décidé, en tant que pas encore merveilleux, de demander de l'aide à des sûrement Inuits et peut-être inouïs. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, chers Inuits, m'envoyer dans mon petit nord une des aurores boréales que les gens ni inouïs ni merveilleux croient réservées au Grand Nord ? Je vous envoie ce message par ptérodactyle voyageur. Il est vieux, mais courageux. Ça devrait vous arriver dans la semaine. Merci d'avance en tout cas. Merlin l'Enchanté, c'est déjà ça. Cap Griné, le 18 mars 2015. Très chers Inuits inouïs, alors là, merci. Et même super, super merci. L'aurore boréale que vous m'avez envoyée hier soir était magnifique et ultra bien placée. En plein sur le Cap Griné, boum, le ciel était vert, rouge, un feu d'artifice d'aurore boréale. Ça a émerveillé toute la famille. Et quand je dis « émerveillé », chez nous, ça veut dire que tout le monde s'est remis au boulot. Mon père a décidé de coincer les bulles de l'eau gazeuse. Ma mère a commencé à jongler avec les crayons qui lui servaient pour les mots croisés. Et mon grand-père est parti courir au bout de l'aurore boréale pour trouver le trésor qui s'y cache forcément et qui doit être fabuleux. Il n'est pas encore revenu, mais on a bon espoir. Dans les journaux, ils ont écrit « Aurore boréale, sublime spectacle dans le Pas-de-Calais ». Aujourd'hui, en cours, le prof a dit « Une aurore boréale sous nos latitudes, mais c'est inouï !» Et tous les autres ont crié « Non, inuit !» Et alors là, je me suis senti merveilleux. Encore merci. Merci, l'enchanteur enchanté. PS, regardez le ciel vendredi prochain. Tout le monde vous dira qu'il va y avoir une éclipse. En vrai, c'est moi qui vous ferai un clin d'œil.
Voilà. Et là, pour conclure.
Oui, j'avais pas préparé de conclusion, mais je vais quand même conclure en vous remerciant tous, en vous remerciant spécialement François Morel. Et à bientôt. Bonne soirée. Merci.